journal Loïc Barrière. Au 9e jour de la guerre en Ukraine, 1,2 million de civils ont fui le pays. Les bombardements russes ont tué plus de 330 civils, selon l'ONU. Après la demande de Kiev, l'OTAN rejette la création d'une zone d'exclusion aérienne en Ukraine. Il faut continuer la diplomatie pour arrêter la guerre, mais en même temps créer un rapport de force avec des sanctions. C'est ce qu'affirme sur Radio Orient le député Pierre-Yves Bournazel. Un rassemblement de soutien au peuple ukrainien, samedi après-midi à Paris, entretien avec le président de SOS Racisme, Dominique Sopo. Au Pakistan, au moins 56 morts dans un attentat visant une mosquée à Peshawar. Après un nouveau procès, le journaliste algérien Khaled Drareni a vu sa peine réduite à 6 mois de prison avec sursis. Les femmes victimes de violences conjugales seront averties lors de la sortie de prison de leur ex-conjoint. Entretien avec l'avocate Khadija Azougash, secrétaire générale de Lawyers for Women. Enfin, début ce vendredi, des Jeux paralympiques de Pékin sans la Russie et la Biélorussie exclus des compétitions. Plus de 1,2 million de personnes ont fui l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe, selon les derniers décomptes de l'ONU. Hier, les Européens ont trouvé un accord pour accorder une protection temporaire aux réfugiés fuyant la guerre. Les bombardements continuent ce vendredi, notamment à Kiev, où des habitations civiles ont été touchées. Selon l'ONU, 331 civils ont été tués depuis 9 jours. Tôt vendredi matin, l'armée russe s'est emparé de la centrale nucléaire de Zaporijia. Le site a été touché la nuit précédente par des tirs russes, mais la sécurité de la plus grande centrale nucléaire d'Europe n'a pas été affectée après un incendie qui a touché un bâtiment administratif. Le président ukrainien, lui, a appelé les Occidentaux à accroître leur soutien. Selon lui, si l'Ukraine tombe, la Russie s'attaquera au reste de l'Europe de l'Est, à commencer par les Pays-Bas. L'OTAN s'est réunie et a refusé d'instaurer une zone d'exclusion aérienne comme l'avaient demandé les autorités de Kiev. Le député de Paris, Pierre-Yves Bournazel, qui sera l'invité de Pluriel ce soir à 19h et 23h, rappelle que l'Ukraine est une démocratie et c'est une démocratie qui est attaquée. On l'écoute.
C'est une situation terrible, d'abord pour le peuple ukrainien, qui en première ligne est bombardé, ciblé. Je suis attaché à la démocratie et aux libertés. Et le peuple ukrainien est un peuple libre, souverain. C'est une démocratie, l'Ukraine. Les Ukrainiens sont attachés à leur liberté, et ces libertés, cette démocratie, elle est bafouée par la volonté de Monsieur Poutine et malheureusement de son armée. Je considère aujourd'hui qu'il faut, dans ces circonstances dures, sur notre sol européen, faire preuve de beaucoup de sang-froid. Je pense que le président de la République, Emmanuel Macron, a tout fait en amont, comme leader de la France, mais aussi de l'Union européenne, pour essayer de nouer un dialogue et éviter la guerre. Malheureusement, nous avons été toutes et tous floués. La France, l'Europe, les États-Unis, l'Alliance Atlantique et toute la communauté internationale. Aujourd'hui, il faut continuer la diplomatie, qui peut être la voie pour assurer, nous l'espérons, le plus vite possible, la paix. Mais malheureusement, c'est une voie, on le voit, extrêmement difficile, on le constate chaque jour. Et donc, il faut aussi créer du rapport de force, c'est les sanctions, notamment un certain nombre de sanctions économiques, proportionnées. C'est aussi une réponse européenne. Pour la première fois, l'Europe, le week-end dernier, a montré à la fois son unité sur le plan diplomatique et sa volonté de mettre en place une défense commune avec le sommet que réunira le 10 et 11 mars prochain le président de la République. Et donc, face à cette situation, nous devons poursuivre et amplifier nos efforts en matière de diplomatie, être très fermes sur le respect du peuple ukrainien, sur la question des libertés, de la démocratie. Et je voudrais pour conclure aussi souligner combien le président Zelensky est inspirant par son courage, sa volonté de défendre cette souveraineté et son peuple.
Pierre-Yves Bournazel, les réfugiés ukrainiens sont bien sûr les bienvenus en France.
Oui, bien sûr, parce que c'est un climat de guerre et ils participent de la Convention de Genève et nous devons les accueillir pour assurer leur sécurité. C'est une question de morale d'abord et c'est une question de respect du droit international.
Le député Pierre-Yves Bournazel, il est l'invité de Pluriel à 19h et 23h. SOS Racisme participera au rassemblement prévu à 15h ce samedi, place de la République à Paris, pour soutenir le peuple ukrainien. On écoute le président de l'association, Dominique Sopo.
Avec de nombreuses organisations, syndicats, partis politiques, il y a un nouvel appel au rassemblement. Alors c'est vrai que nous avons été actifs depuis le début dans les mobilisations l'Ukraine, et si nous sommes actifs, c'est parce qu'on est quand même sur une guerre impérialiste. Poutine est un impérialiste, et dans une guerre impérialiste qui vise à soumettre un pays voisin en lui déniant le droit d'exister en tant qu'entité indépendante, et qui nie même une existence au peuple ukrainien comme peuple à part entière. Donc lorsque l'on est un antiraciste, évidemment les logiques d'agression impérialiste ne nous sont pas complètement étrangères, puisque c'est ce qui a naguère justifié le colonialisme. Ce à quoi nous appelons tout simplement samedi, c'est d'abord de venir condamner l'agression perpétrée par Vladimir Poutine envers l'Ukraine, soutenir le peuple ukrainien qui aujourd'hui est sous les bombardements et qui compte de plus en plus de morts en raison de cette agression inqualifiable et de cette rupture avec le droit international et même avec les traités que la Russie a elle-même signés ces dernières années, pour dire aussi qu'il faut un accueil inconditionnel des réfugiés qui se pressent aux frontières de l'Union européenne et pour également appeler à ce que tous les efforts soient faits pour rétablir la paix et obtenir l'évacuation des troupes russes du territoire ukrainien, de l'Ukraine, qui est un État à part entière et qui ne saurait être ainsi vassalisé par un homme qui a décidé que ce pays, encore une fois, ne pouvait pas être un pays autonome, indépendant et à part entière.
Oui, parce que le mot d'ordre avec Stand with Ukraine, c'est non à la guerre en Europe, c'est l'objectif essentiel aujourd'hui.
L'objectif essentiel, c'est évidemment que la guerre s'arrête, mais pas à n'importe quel prix. Je pense que la guerre, elle doit s'arrêter par le départ de celui qui l'a déclenchée et par la cessation des opérations de guerre russes qui aujourd'hui sont des agressions inqualifiables vis-à-vis de l'Ukraine. Nous disons non à la guerre menée par Vladimir Poutine, et oui à un retour de la paix avec une Ukraine, enfin, j'allais dire, débarrassée de cette menace constante que constitue cette géostratégie, cette géopolitique douteuse de Vladimir Poutine qui, depuis des années, terrorise tous les pays voisins et va en grignoter des parties, comme il l'a fait en Géorgie en 2008, comme il l'a déjà fait en Ukraine il y a quelques années, en annexant de façon unilatérale la Crimée par des prétextes totalement fallacieux. À un moment donné, ça suffit, et donc il faut faire preuve de fermeté par rapport à Vladimir Poutine, bien signifier que c'est lui qui mène la guerre aujourd'hui, parce que tout le monde veut la paix, d'une certaine façon, sauf lui, parce que c'est lui qui est en train de faire la guerre, c'est lui qui a déclenché la guerre, et donc c'est aussi à lui d'y mettre un terme sans délai, pour revenir dans un ordre international dans lequel on n'en serait pas à un retour aux années pré-1989, pré-chute du mur de Berlin, où on reparle, chose totalement ahurissante, de danger nucléaire.
Le président de SOS Racisme, Dominique Sopo, interrogé par François-Xavier Decalonne. Dans le nord-ouest du Pakistan, au moins 56 personnes ont été tuées dans un attentat dans une mosquée chiite de Peshawar. L'attaque a eu lieu lors de la prière du vendredi. On compte aussi 194 blessés. Il s'agit de l'attaque la plus violente depuis décembre 2018 dans cette ville de Peshawar. En Tunisie, les corps de 4 migrants subsahariens ont été retrouvés à Aïdra, dans le gouvernorat de Kasserine. Ils sont morts probablement de froid et de faim. Le seul à avoir une pièce d'identité était un ressortissant de la Côte d'Ivoire. Des centaines de migrants ont réussi à pénétrer dans l'enclave espagnole de Melilla à partir du Maroc. Au total, 800 personnes ont franchi la clôture en lançant des pierres contre les forces de sécurité espagnole. En Algérie, le journaliste Khaled Drareni a vu sa peine réduite à 6 mois de prison avec sursis. En première instance, il avait été condamné à 3 ans de détention pour incitation à attroupement non armé et atteinte à l'unité nationale. Au Maroc, le journaliste Omar Radi, condamné en appel à 6 ans de prison pour atteinte à la sécurité intérieure de l'État et viol, son avocat a annoncé qu'il allait se pourvoir en cassation. En Libye, le premier ministre désigné par le Parlement, Fathi Bachaga, a prêté serment devant les députés à Tobrouk, une cérémonie qui a eu lieu alors que le gouvernement en place à Tripoli, dirigé par Abdelhamid Dbeiba, refuse toujours de céder le pouvoir. L'émission « Et si on en parlait » jeudi soir sur Radio Orient était consacrée aux droits des femmes avant la journée du 8 mars. Les victimes de violences conjugales seront désormais averties de la sortie de prison de leur conjoint ou leur ex-conjoint. Un décret dont se félicite maître Khadija Azougache, avocate et anthropologue, secrétaire générale de l'association Lawyers for Women. Mais selon elle, il faut plus de moyens humains pour la justice. On l'écoute.
C'est une belle avancée parce que jusqu'à présent, on considère que les victimes sont subsidiaires dans le accessoire, dans les procédures pénales notamment. L'auteur de violence, c'est l'acteur principal. La victime, même si elle n'est pas présente, peu importe, la procédure va suivre son cours. Elle n'est pas informée, hormis qu'elle a un avocat qui fait les actes pour la tenir informée. La victime est rarement informée et surtout, on pense qu'une fois que l'auteur a été condamné, qu'il n'a plus lieu de la tenir informée. Donc ce décret est salutaire hein, parce qu'on va pouvoir ainsi la préparer à une protection, notamment à demander à un téléphone grand danger ou des bracelets anti-rapprochement si cette personne a une remise de peine ou a fini sa peine de prison. Donc, sur ce point, c'est salutaire, mais sur la pratique, c'est problématique parce que il y a un manque de moyens, que ce soit humain ou matériel, parce que ça nécessite un investissement qui n'a pas lieu aujourd'hui en France, puisque on est à 6 euros d'investissement par personne pour lutter contre les violences faites aux femmes, alors que nos voisins espagnols sont à plus de 16 euros par personne dans la lutte contre les violences faites aux femmes, dans l'investissement contre la lutte contre les violences faites aux femmes.
Maître Azougache, est-ce qu'il faudrait mettre en place des tribunaux et des brigades spécialisées contre les violences faites aux femmes?
Merci pour cette question qui est essentielle, parce que ça a été fréquemment, quand on fait le comparatif au niveau européen, on regarde ce qui se passe de bien chez nos voisins, et c'est important parce que c'est comme ça qu'on avance en comparaison, par la comparaison. Et donc dans la comparaison, c'est comme on le disait, le bon élève qui est l'espagnol. L'Espagne, depuis 2004, a un dispositif qui a permis ainsi d'améliorer la lutte contre les violences faites aux femmes, puisque on sait très bien qu'ils étaient de très mauvais élèves. Les taux étaient plus importants qu'en France, les taux de violences faites aux femmes, et c'est dans la Méditerranée, malheureusement, où il y a eu plus de féminicides et de violences faites aux femmes. Et ils ont pris loi cadre, ils ont réussi à mieux coordonner les la Ligue contre les violences faites aux femmes, et cette coordination passait par des tribunaux spécifiques et des personnels formés. En France, on pourrait s'inspirer essentiellement d'avoir des procureurs spécialisés, des magistrats spécialisés. Ça ne demande pas beaucoup plus de moyens, ça demande essentiellement de la formation, formation bien ciblée auprès de certains magistrats, en l'occurrence le procureur, parce que quand on dépose plainte, le circuit c'est ça, c'est lorsque la victime arrive à déposer plainte, à libérer la parole, elle se confie à un agent de police qui, immédiatement par la plainte, va faire un rapport à un procureur. Et c'est ce procureur, souvent qui est de permanence, ça veut dire qu'il peut passer d'un vol à l'étalage, à du grand banditisme et à des violences faites aux femmes. Donc, il doit être assez polyvalent et malheureusement pas très expert en la question. Et donc, c'est au bonheur la chance. Et nous, ce qu'on demande, c'est d'avoir un procureur spécialisé, donc c'est des moyens humains, et parce que la justice, malheureusement, à l'heure actuelle, est encombrée et il n'y a très peu de magistrats et de moyens matériels pour mettre en œuvre de tels dispositifs.
Maître Khadija Azougache, avocate et anthropologue, secrétaire générale de l'association Lawyers for Women. Enfin, c'est le début des Jeux paralympiques de Pékin. Les 83 athlètes russes et biélorusses qui devaient participer aux compétitions ont finalement été exclus. La Russie dénonce une violation du droit sportif et va faire appel de la suspension. Cette édition est terminée. Merci de votre fidélité.